C'est le dernier coup de l'année académique.
Mon père, pour ce dernier cours, on souhaitait vous interroger sur votre ouvrage « Retour à la source ». Il suscite beaucoup d'intérêt pour les frères. Vu le nombre de questions qu'on a, on a plus d'une 80aine de questions. Et de façon réaliste, on ne posera pas plus de 300 doutes. Le livre a été lu dans son entier par les frères.
C'est très bien. C'est fait pour susciter vos questions. Toute recherche de vérité nous éveille et nous montre une petite voie et en même temps toutes les autres voies. C'est une voie. Il y en a plusieurs autres.
Il y a une première question qui porte sur le titre de l'ouvrage lui-même. Vous avez intitulé votre dernier livre « Retour à la source pour une philosophie sapientiale ». Pourquoi pour une philosophie sapientiale ? La philosophie, si l'on s'en tient à l'étymologie, n'est-elle pas essentiellement un mot de la sagesse ? Une philosophie qui ne s'ouvre pas à la quête de la sagesse est-elle encore philosophie ? Pourquoi ne parlez-vous pas d'une véritable philosophie au lieu de philosophie sapientiale ?
Parce qu'aujourd'hui, le mot philosophie a pris un sens tout à fait différent que pour Aristote. D'abord, la métaphysique est quand même la philosophie première. Donc, on ne dit pas philosophie tout court. Si je mets philosophie première, les gens ne savent plus ce que ça veut dire. Sapientiale, ça les éveille. Ça veut dire une philosophie qui est capable d'atteindre Dieu. Tandis qu'il s'appelle philosophie aujourd'hui, toute réflexion sur l'homme. Toute réflexion sur l'homme aujourd'hui s'appelle philosophique. Et je veux que cette philosophie soit sapientiale, elle nous conduit à Dieu.
Dans le premier paragraphe de votre livre, vous faites un constat de la situation de l'intelligence humaine qui est, entre guillemets, étouffée.
Oui.
Saisie par le développement interne et très étendu de la raison, et vous affirmez plus loin que la raison qui devrait nous aider et nous conduire à un éveil de l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, devient le grand obstacle que nous avons à affronter. Pourquoi n'avez-vous pas abordé immédiatement le problème de la personne humaine vouée à cet état de fait ? Quel est l'intérêt de commencer l'analyse de la personne humaine par les idéologies qui tracassent l'homme moderne ?
Parce que le philosophe nécessairement dans un milieu. Et les... Il y a encore hier des personnes qui cherchent la philosophie et qui sont seules. Et on dit, comme c'est difficile pour nous, parce que tous ceux qui cherchent la philosophie aujourd'hui, tous ceux qui sont philosophes officiellement, eh bien, c'est des études de l'homme avant tout. Donc on fait bien, il faut bien faire allusion à ça. Et moi-même, c'est trop court. J'aurais aimé faire quelques pages là-dessus. Mais on ne peut pas. Et le mot philosophie a pris de fait au cours des années et ces dernières années. Parce qu'au XIVe siècle, le mot philosophie a encore le sens de sagesse. Mais aujourd'hui, n'a plus du tout le sens de sagesse. Donc, il faut bien dire, voilà ce qu'on fait. Et en Allemagne, le mot sagesse n'a plus de sens. Et quelques philosophes avec qui on a contact, ils le disent ouvertement. Ça n'a plus de sens parce que la philosophie, elle est humaine. Donc, la métaphysique, qui pour moi est le sommet de la philosophie, n'est plus philosophique. On est obligé d'insister sur ce qu'on veut faire. Je ne dis pas que je fais de la philosophie dans le monde d'aujourd'hui. On dit on est un professeur de philosophie, très bien. On met tout ce qu'on veut dans ce mot. Mais même à Fribourg, qui était pourtant un lieu où on devait enseigner le thomisme, la philosophie était regardée comme une étude de l'homme. La métaphysique, c'était la philosophie première, comme dit Aristote, ou ultime, mais qui, d'une certaine manière, n'est plus philosophie, elle est sagesse. Alors on est obligé de lutter contre ça aujourd'hui, de maintenir le mot philosophie à une sagesse. Moi, la sagesse fait partie de la philosophie. La philosophie est sapientiale.
Une autre question. Mon père, je suis étonné de la manière dont vous situez votre démarche comme un effort de rester fidèle à Saint Thomas. Quelle place Saint Thomas et Aristote occupent dans votre recherche de vérité ?
Capital.
Comment pouvons-nous situer votre quête philosophique ? Est-elle ordonnée à une meilleure connaissance de la foi ou est-elle faite pour elle-même ? Dans votre intention, y aurait-il un ordre entre ces deux approches ?
Elle est faite pour les deux. Parce que je suis à la fois un homme et un chrétien. Et je distingue les deux. Je ne confonds pas les deux. Pour moi, être chrétien ne supprime pas d'être homme. Et d'être homme appelle d'être chrétien, mais n'est pas chrétien. Donc, distinguons bien la philosophie, recherche de philosophie, recherche de vérité pour elle-même, et la philosophie au service de ma foi. Bien pour moi, la philosophie est premièrement une recherche de la vérité pour elle-même. Mais en même temps, cette recherche de vérité pour elle-même, elle est ordonnée, elle peut être ordonnée à la théologie. Pour moi, toute démarche philosophique faite avec rigueur transforme ma métaphysique, transforme ma théologie, je veux dire. Une théologie qui se veut indépendante de la philosophie est une fausse théologie. C'est ce qu'on appelle le fidéisme. Le fidéisme, je vous l'ai dit plus d'une fois, c'était ce que le Saint-Père disait, Paul, la l'an dernier.
Paul VI.
Paul VI. Le fidéisme est le plus grand danger actuel pour l'Église catholique. Parce que l'Église catholique s'endort et se réveillera protestant. Je vous l'ai dit, déjà, un petit dialogue qui était très sympathique et très significatif avec le pasteur Finet, qui était pasteur à Paris. Bon, un pasteur luthérien, extrêmement ouvert. Bon, nous étions d'accord pour beaucoup de choses, mais quand on est arrivé à la question « Est-ce que l'intelligence humaine peut-elle découvrir l'existence de Dieu ou pas découvrir l'existence de Dieu ?» J'ai vu l'attitude de luthérien. Alors c'était d'une netteté extraordinaire. L'intelligence humaine ne peut pas atteindre l'existence de Dieu par elle-même. Donc, dès qu'elle parle de Dieu, elle parle en croyant. Le fidéisme. Mais l'intelligence humaine, donc, l'intelligence humaine ne peut plus atteindre une philosophie sapientiale. La philosophie est faite pour connaître l'homme, et puis c'est tout. Alors, on est dans ce climat-là. Et des quantités de théologiens aujourd'hui, je n'ose pas dire un chiffre, je dis seulement une quantité de théologiens. Mettez vous-même le chiffre. Une quantité de théologiens français et allemands pour eux, l'intelligence humaine ne peut pas découvrir l'existence de Dieu. Donc, je ne peux découvrir l'existence de Dieu que par la foi. Si je ne peux découvrir l'existence de Dieu que par la foi, il n'y a plus de théologie. Puisque chaque fois que je fais appel à l'intelligence, je fais appel à une intelligence incapable de parler de Dieu. Donc, il ignore complètement ce que c'est que l'analogie. On est en face d'une intelligence rationnelle. Le fait de distinguer la raison et intellectus, c'est fini. C'est pour ça que, personnellement, je crois que le grand tournant de la pensée, c'est le 14e. Parce que c'est au 14e que, de fait, les théologiens, n'ont plus vu la distinction entre ratio et intellectus. Parce qu'au XIVe siècle, ils parlaient encore latin. Alors, on a chez Descartes l'entendement. Est-ce que l'entendement est ratio? Est-ce que l'entendement est intellectus? Je crois que c'est là l'erreur fondamentale qui a pénétré dans la recherche théologique. nous sommes, nous, petits-fils, qui subissons les conséquences. Et comme c'est déjà assez vieux, le XIVe siècle, c'est pas tout à fait près, c'est pas la porte directe, on oublie cette première distinction, ratio indeus. Et on considère que cette distinction ratio indeus n'existe plus. On n'a plus que l'entendement. Je crois que c'est là l'erreur fondamentale. La confusion. Bon, l'erreur fondamentale, c'est une confusion. Une distinction qu'on ne fait plus. Une distinction qu'on ne veut plus faire. Vous comprenez ? La distinction entre ratio intellectus, c'est la distinction d'une abstraction univoque, genre, différent spécifique, propriété, accident, les cinq prédicables. Proviennent de cette abstraction fondamentale, l'abstraction formelle, celle de l'analogie, est au-delà de la distinction genre et différence spécifique. C'est la distinction intellectus et ses modes. Et ça, c'est capital. Alors, quand dans un livre de théologie, on voit qu'on n'a pas compris cette distinction-là, on voit tout de suite les conséquences. Est-ce que vous avez une connaissance quiditative du mystère ? Non. Donc, ma raison ne peut rien me dire du mystère. Seul l'intellectus analogique peut me dire quelque chose du mystère. Analogiquement. Faire une théologie quand je ne vois que genre et différence spécifique. Parce que genre et différence spécifique ne peuvent rien me dire sur le mystère révélé. Alors, voyez, le dernier livre sur la grâce. Maintenant, on peut en parler, parce que ça fait quand même suffisamment de temps que ce livre a été écrit. On veut donner une définition de la grâce par genre et différence spécifique. Donc, d'emblée, on dit, vous n'avez pas compris l'analogie. Pas la peine de continuer. On voit tout de suite. Quelqu'un qui veut faire une théologie ne comprenant pas ce qu'est l'intellectus, l'intelligence, selon le mode analogique, qui veut tout ramener au mode rationnel, demeure dans l'humain. Tout ce qu'il dit de Dieu, il le dit d'une façon qui n'est pas vraie. C'est l'humain. Dieu n'est pas dans un genre. L'être n'est pas dans un genre. Cette affirmation constante d'Aristote. L'être n'est pas dans un genre. Et Dieu, qui est l'être premier, n'est pas dans un genre. Donc tout le mystère de la révélation n'est pas dans un genre. Il faut être farouche, tu.
Père, on va passer à une autre question plus liée à la dimension amicale. Vous dites que c'est la découverte de la fin en éthique qui exige une recherche de la finalité en philosophie première, au niveau de ce qui est en tant qu'être. Y a-t-il un lien de nécessité exprimé par cette exigence entre la recherche de finalité au niveau éthique et au niveau de l'être en tant qu'être ? Il y a une autre question d'un frère qui voulait savoir si l'expérience de l'amour d'amitié est nécessairement métaphysique.
Non, elle n'est pas nécessairement métaphysique. Elle existe comme humaine. Je ne dis pas à quelqu'un « je vous aime métaphysiquement ». Je vous aime beaucoup parce que vous êtes un être. Un amour tout particulier pour l'être. Alors, votre réaction profonde est bon, on n'aime pas l'être. Je n'ai pas d'amour pour l'être, moi. Je connais ce qu'est l'être. Je n'ai pas d'amour. J'aime l'être existant, la personne. Et alors, confusion constante entre les deux.
Mais est-ce qu'il y a un niveau différent de, enfin, lorsqu'on parle de la finalité en éthique, on regarde le bien, et le bien personnel en tout cas.
Mais,
enfin, en quoi est-ce que cette finalité en éthique va beaucoup plus loin lorsqu'on la regarde enfin, au niveau de l'être en métaphysique?
Oui. Quand on le regarde au niveau de l'être métaphysique, on la regarde comme un des transcendantaux. Quand on l'atteint comme le bien humain, on l'atteint au niveau éthique.
Est-ce qu'il y a un lien de nécessité entre ces deux approches-là? C'est un peu ça la question du frère.
C'est évident.
C'est-à-dire?
La métaphysique n'est pas séparée de l'éthique. Elle est distincte, mais elle n'est pas séparée. Toujours la même erreur, confondre distinction et séparation. La métaphysique n'est pas l'éthique. Mais pour avoir une éthique qui soit vraie, il faut une métaphysique. Le bien humain, l'ami, n'est pas la ratio boni, mais le bien humain, l'ami, implique, contient cette ratio boni pour moi. Je découvre la ratio boni dans l'ami. Je ne la découvre pas en soi, indépendamment de l'ami.
Je n'avais pas fini la question, en fait.
Oui.
Dans l'induction de l'être en acte, l'analogie suppose un rapport d'acte et de puissance entre deux réalités. Aristote regarde cela dans diverses expériences pour réaliser l'induction par analogie synthétique. L'expérience de la finalité au niveau éthique, assumée par l'induction analogique de l'être en acte, réalise-t-elle l'unité de toute la diversité des expériences prises dans l'analogie synthétique ? Peut-on dire qu'elle permet une induction plus unifiée et par là même plus évidente ? Pouvez-vous expliciter
oui,
cela?
Reprenez jusqu'à ce que je dis.
Peut-on dire qu'elle permet une induction plus unifiée et par là même plus évidente?
Oui.
Pouvez-vous expliciter cela?
Mon intelligence est en même temps ration, raisonnable. Mon intelligence découvre progressivement ce qu'est l'être, ce qu'est le bien. Et cette découverte de l'intelligence en métaphysique ne supprime pas mon expérience humaine de l'amour. Mais je sais bien que mon expérience humaine de l'amour ne me donne pas avec autant de netteté ce qu'est le bien en soi. Je découvre le bien humain. Je découvre le bien humain qui est bon parce que c'est mon ami. Donc, les transcendentaux sont présents dans l'éthique, mais ne sont explicités comme transcendentaux qu'en métaphysique. Et alors, ceci, c'est surtout vrai pour le bien. Le bien est saisi, premièrement, dans cette expérience que je dis « ce plat est bon ». Le goût. Ce plat est bon. Cette expérience du goût n'est évidemment pas l'expérience de Dieu. Pour certaines personnes, cette expérience du goût est l'expérience de Dieu. Mais je dis non. C'est une expérience de la participation de la bonté divine, mais pas de Dieu. Pour découvrir la ratio boni, je dois prendre une autre expérience, pas seulement celle du sens, mais une expérience de mon intelligence qui découvre la bonté d'une personne. Quand je découvre la bonté d'une personne, je découvre dans la ratio boni, quelque chose de tout à fait nouveau que lorsque je prends un repas très bon. Les deux expériences très différentes. Mais il y a quelque chose de commun, un plat qui est bon, un ami qui est bon. Alors, je confronte ces deux expériences. Voir que la ratio boni, la raison de bien, n'est ni totalement donnée dans le plat qui est bon ou dans l'ami qui est bon. Le bien m'est donné de ces deux manières. Bon. Je fais une troisième expérience où je dis, est-ce que la bonté que je saisis dans mon ami est-elle la bonté suprême? La bonté d'une personne a son caractère tout à fait propre à cette personne. Elle implique le point de vue spirituel de l'intelligence et de l'amour. Mais elle est limitée. Existe-t-il un être premier qui, par lui-même, est infiniment bon? À ce moment-là, cette ratio boni saisie dans l'être premier n'est plus une expérience humaine, elle devient une expérience métaphysique. L'analogie est toujours présente. passe un. Toujours. Et plus on avance au point de vue philosophique, plus l'analogie est présente. La ratio boni en Dieu, en l'être premier, est parfaite. Et une certaine connaissance de cette ratio boni. Mais je n'ai pas de connaissance de la ratio du bien en Dieu. Le bien divin m'échappe au point de vue philosophique. Je ne le saisis que analogiquement. C'est-à-dire, le poète de la connaissance analogique, c'est la premièrement la diversité. Et dans la diversité, quelque chose de commun. Alors j'ai une connaissance analogique.
Mon père, un autre petit passage de votre ouvrage. Découvrir l'objectivité de l'ami en tant qu'il est capable d'être fin, c'est découvrir le principe et la cause selon la fin de ce qui est en tant qu'il est. La question du frère, pourquoi considérer l'objectivité de l'ami en tant qu'il est capable d'être fin et non pas plutôt en tant qu'il est actuellement notre fin?
Oui, en tant qu'il est notre fin, j'ai l'expérience. Je ne conclue rien du tout. Dès que vous aimez, vous avez cette expérience-là. Mais le passage de ma fin à la fin, ah, c'est autre chose. Là, il y a une induction. Oui. L'objection consiste à confondre ratio boni et tel mode de bien. Tel mode de bien, j'en ai l'expérience. La ratio boni, j'en en ai pas l'expérience. Je la saisis inductivement.
Mais, enfin, je crois aussi que la question du frère, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que vous parlez de capacité, l'ami comme capacité, enfin, capable d'être ma fin, on est encore dans enfin, un certain possible, alors que dans la vie, ben, je fais l'expérience que l'ami est maintenant, actuellement, ma fin.
Oui, oui. Mais ça, c'est là, il y a une induction. Vous n'avez pas de l'expérience de la fin?
Par l'ami, oui.
Ah, donc l'expérience de l'ami, mais pas de la fin.
Tout à fait.
La fin est un principe. Est-ce que j'ai l'expérience d'un principe? Posez la question comme ça. Alors vous verrez mieux. Est-ce que vous avez l'expérience d'un principe? Ça, c'est une bonne question à la fin de ces études théologiques. Est-ce que j'ai l'expérience d'un principe? Est-ce qu'un principe, je ne le saisis qu'inductivement? Alors, je vois la différence entre l'expérience et l'induction.
Une autre petite question, mon père.
Oui, mais ça, c'est très important. Hein. C'est même capital. Parce que je crois que très souvent, on confond. On considère que la fin est une expérience. Mais non, je n'ai pas l'expérience de la fin. J'ai l'expérience du bien. Et cette expérience du bien me donne une découverte de la fin. Alors, c'est évidemment très proche, induction et expérience. Mais induction et expérience, ce sont deux choses différentes. L'expérience est immédiate, l'induction, elle implique un raisonnement.
Il y a une question qui porte justement sur le passage entre l'expérience et l'induction.
Oui.
pour quelqu'un qui n'a jamais eu la chance d'avoir une vraie amitié, mais qui cherche la vérité, est-ce qu'il peut arriver à la découverte de l'être premier ?
Bien sûr, sûrement. Du fait même qu'il a l'expérience de ce qui est et qu'il cherche à comprendre ce qui est lui-même comme personne. J'existe, tu existes. D'où vient cette expérience de l'être à l'intérieur du bien, dans toutes les réalités que j'expérimente, le être et le bien sont deux choses différentes. Est-ce qu'au fond, cette différence de l'être et du bien, est-ce qu'elle est une différence qui est normale dans l'être ? Ou bien est-ce que c'est une différence qui provient de telle modalité particulière de l'être ? Oui, alors par là, j'avance pour chercher la cause. La causalité n'est pas liée à l'expérience de l'amitié. Beaucoup d'amis n'ont aucune expérience de la causalité finale. Ils n'ont pas réfléchi. Le propre de la philosophie, c'est de faire réfléchir sur nos expériences. La philosophie ne nous donne pas de nouvelles expériences, mais la philosophie permet de faire que ces expériences que nous faisons soient intelligibles, humaines, et au-delà de l'humain, aboutissent à Dieu. Vous voyez, je crois personnellement, je dis personnellement parce que sûrement que tous les thomistes ne disent pas ça, qu'il y a une voie d'accès à Dieu par la nature et par la personne. La nature qui existe est porteuse de l'être premier dont elle dépend. Je prenais cet exemple de façon plus concrète en disant, au fond, on doit découvrir dans la réalité la signature de la cause première. Quelle est la signature du Créateur? Nous portons en nous la signature du Créateur dans notre âme, qui existe spirituellement. Et cette âme me permet de poser directement Dieu. La cause de l'âme, c'est Dieu. Là, je découvre Dieu indépendamment de l'amitié. L'autre voie pour moi, c'est par l'amitié. Alors, elle m'est plus proche de mon expérience. Mais il faut mettre les deux. Puisque je distingue nature et personne, et que la distinction nature et personne va jusqu'au bout, elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Dieu. Et en Dieu, nature et personne, hein, pas de distinction entre les deux. Tandis qu'en dehors de Dieu, toujours distinction entre nature et personne. Alors il y a deux voies d'accès. Il n'y a pas qu'une, il y a deux voies d'accès. Et ces deux voies d'accès s'appellent. Et c'est ça, je crois, qui nous aide beaucoup. On a toujours besoin de la dualité, parce qu'on se fatigue de l'unité. Alors, il n'y a qu'une seule voie d'accès vis-à-vis de Dieu. Oh, je ne vois pas. Ah, mais non, il y en a deux. Ah, ah bon, c'est de l'amitié. Ah, tiens, oui. Ah, c'est bien plus facile par l'amitié. C'est pas plus facile, mais apparemment, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Dieu, c'est l'ami. Et Dieu est l'être premier. Cet ami est extraordinaire, il est l'être premier.
Mon père.
Alors c'est ça qui fait, vous voyez, nous sommes des êtres intelligents, mais des êtres intelligents qui très facilement se heurtent dans la recherche de la vérité. Et parce qu'ils se heurtent, ils reviennent toujours à l'obstacle. Comme leur obstacle étant plus intéressant que la vérité. Parce que pour eux, cet obstacle a empêché d'aller plus loin. Alors, plutôt que de se battre indéfiniment contre des moulins à vent, hein, prenez une autre voie. Et c'est là l'erreur de la scolastique. La scolastique n'a donné qu'une seule voie, celle de l'être, celle de la nature. Alors, c'était pas vrai. Alors, on oppose les deux. On oppose une philosophie de la nature, une philosophie de la personne. Alors, il n'y a pas à opposer. La philosophie de la personne implique la philosophie de la nature, et la philosophie de la nature implique la philosophie de la personne. Mais c'est très vrai que si je regarde le développement de la philosophie, je vois que le premier développement de la philosophie a été la nature, et que actuellement, à partir de la théologie, ce développement c'est fait par la personne, dès le XIVe siècle. Et alors, plutôt que d'opposer, je vois qu'il y a deux développements, il y a deux grands moments de développement de ma philosophie, ce développement de la nature, et il n'y a aucune raison que ce développement de la nature ne continue pas. Parce que je suis une nature. Et puis, le développement de la personne est tout à fait différent. Je n'oppose pas, je distingue. Et je crois bien, je dis je crois bien parce que c'est très délicat, je crois bien qu'il y a ces deux développements. Et c'est très reposant. Vous voyez, une philosophie de nature et de la personne, c'est très reposant de passer de l'un à l'autre. De voir ce que la nature peut donner, ce que la personne peut donner. Et que la personne éclaire la nature, et que la nature éclaire la personne. Faites l'expérience vous-même. Et ce qui est intéressant, alors, en deuxième lieu, c'est de voir que dans Thomas d'Aquin, je ne comprends bien Thomas d'Aquin que si je vois en lui ces deux aspects. Et que la plupart des thomistes n'ont plus que l'aspect nature.
Mon père, il y a une question sans doute qui se rapproche de ce que vous dites. Dans sa troisième antinomie, Kant oppose la nature à la liberté. Pour lui, La causalité n'est présente que dans la nature à cause du déterminisme qu'on y constate.
La liberté, au contraire, exclut la causalité. Pensez-vous que pour répondre à Kant, le seul moyen soit de redécouvrir la causalité finale ?
Mise en pleine lumière par l'induction de l'être en acte, une causalité qui actue sans déterminer. Dans l'amitié, peut-on alors dire que l'ami actue sans déterminer en tant qu'il est mon bien, ou bien faut-il reconnaître qu'il me détermine aussi, au moins en partie ?
Oui, au fond, la distinction de Kant, vous y répondez correctement en prenant la distinction nature-personne. Pourquoi opposer la liberté à la nature ? Il n'y a aucune raison. Votre liberté est née de votre nature. Alors, en voulant voir la liberté indépendamment de la nature, vous ne voyez plus le fondement de la liberté. Et quand vous avez des petits conscients en face de vous, ça arrive, ça. Quand on a un petit conscient en face de soi, il faut montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre nature et personne. Alors ils ouvrent les grands yeux. Ça, j'en ai l'expérience, hein, parce que le petit groupe des conscients, qui maintenant ça fait la troisième année qu'ils viennent, ils sont conscients. La dernière fois, je parlais pendant 2h30 à celui qui est le président, donc responsable des autres, qui est très conscient. Et cependant, il sent qu'il y a quelque chose d'autre. Pendant 2h30, j'essaie de lui faire comprendre ce dépassement de ce qu'est la personne. Et pour comprendre la liberté, il faut regarder la personne. La liberté, elle est le fruit d'une personne. Elle n'est pas en soi. La liberté en soi n'existe qu'en Dieu. Et parce qu'elle n'existe qu'en Dieu, et qu'on croit qu'elle existe dans l'homme, en la découvrant dans l'homme, je l'exclus de Dieu. Alors, heureusement que cet homme conscient avait un très grand amour pour son épouse et pour ses enfants. Je lui dis, la philosophie de Kant, est-ce qu'elle explique l'amour que vous avez pour votre épouse ? Et dire que l'amour que vous avez pour votre épouse, d'amour libre. Alors, oui, il est libre. Ah, s'il est libre, il n'est pas naturel. Alors, il est naturel. Il est naturel et il est libre. Tiens, ça, Kant ne peut pas l'expliquer. La philosophie kantienne ne peut pas expliquer ce que c'est. Kant n'a pas été jusqu'au bout de sa philosophie, puisqu'on fait la philosophie de l'homme, et que dans l'homme, ce qui est le plus précieux, c'est sa liberté. Si je ne peux pas expliquer la liberté de l'homme, ma philosophie n'est pas adéquate.
Mon père, peut-être une dernière question. Dans le monde d'aujourd'hui, le mal est souvent présenté comme un bien, comme un droit et comme un signe de liberté. Les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à s'engager à vie, car les possibilités sont quasi infinies. Ils cherchent un amour idéal, sans souffrance. Ils vivent selon les circonstances et ne choisissent jamais, par peur de donner leur vie jusqu'au bout. Comment la métaphysique et l'éthique peuvent être utilisées en pastoral de manière compréhensible et accessible pour les jeunes qui n'ont aucun sens de la fidélité et encore moins de la philosophie? Est-ce que la métaphysique et l'éthique peuvent être un outil pédagogique en vue d'une vocation religieuse, sacerdotale ou du sacrement de mariage?
Je comprends. C'est la philosophie de l'amitié. La philosophie de l'amitié, c'est merveilleux. Je suis persuadé que saint Thomas est revenu à Aristote à cause de la philosophie de l'amitié. Il a trouvé enfin quelqu'un qui s'arrêtait à l'amitié. La philosophie de l'amitié est capitale pour nous parce qu'elle tient la nature et l'éthique. Donc elles font une réconciliation de Kant. Parce que Kant a mis une dualité entre ce qui est nécessaire et la liberté. C'est pour ça que nature et personne, c'est quelque chose de si précieux et c'est quelque chose qui nous permet une lecture vivante de saint Thomas. Saint Thomas est en attente de cette distinction. Il est vraiment thomiste, fils de saint Thomas, c'est d'expliciter cette distinction et d'y aller plus. Voyez, il y a deux manières d'être thomiste. Il y a la manière d'être thomiste, celui qui répète saint Thomas sans comprendre. C'est embêtant. Ou comprendre saint Thomas comme ayant donné la découverte des principes. Saint Thomas nous permet de découvrir les principes. Et une fois qu'on a découvert les principes, on est libre. Quand vous avez découvert le bien qui vous finalise, vous êtes